Explique-nous un petit peu l'importance du facteur temps, parce qu'il y a quand même des données précises sur la vitesse d'écoulement, par exemple, dans les ruisseaux et surtout le passage dans la nappe phréatique.
Voilà, le facteur temps est très important parce qu'il faut savoir où est le maximum de pollution et à quel moment, parce que ces ruisseaux, ils sont utilisés, c'est-à-dire que les ruisseaux, dans les ruisseaux, vous avez des gens qui vont aller pêcher. Donc, on risque de contaminer les poissons, risque de contamination des poissons. Vous avez des gens qui utilisent cette eau pour irriguer. Donc, dans la nuit, il y a des gens qui irriguaient. S'ils n'ont été prévenus que l'après-midi, à midi, ils ont pu consommer des salades ou autres de leur potager qui ont été irriguées avec cette eau contaminée. Donc, je dirais que intervenir, faire des prélèvements là où il faut dans l'environnement pour savoir où on est où on en est de la pollution, c'est primordial pour assurer la protection. Donc pour revenir à la chronologie, j'en étais 6h30, entre 6h30 et 7h30, ils vont aller faire des prélèvements dans l'environnement, mais en évitant d'aller dans les ruisseaux là où c'est le plus contaminé. Deuxième problème, ils n'avertissent les autorités de contrôle qu'à 7h15, alors à 7h15, d'après la Socatrie, ils informent l'autorité de sûreté nucléaire, c'est-à-dire celui qu'on appelle le gendarme du nucléaire.
Nice.
Voilà, donc là, nous, on a voulu savoir, parce que donc ça, c'est le moment, 7h15, les autorités en charge des contrôles et de la protection de la population sont averties. Or, nous, on a une autre date clé, c'est que les mesures de protection au niveau de la population, c'est-à-dire les informer de plus boire l'eau. Les gendarmes sont allés dans les lacs informer les gens de sortir, de ne pas se baigner, informer les pêcheurs de ne pas pêcher, de ne pas irriguer avec cette eau. Enfin, tout ce travail-là a été fait après 16h de l'après-midi. Donc notre question s'est fait, qu'est-ce qui s'est passé entre 7h15, moment où les autorités sont informées, et 16h l'après-midi, moment où on commence à prendre les premières mesures. Alors des mesures qui sont très bien, hein, là, vraiment, pour une fois, les mesures de protection, nous, on trouve qu'elles ont été très correctes. Par contre, il y a un délai. Ces questions sont restées opaques, c'est-à-dire que nous, on a dit, on voudrait savoir ce que l'exploitant a dit à l'autorité de sûreté nucléaire à 7h15. Est-ce que quand ils ont averti l'autorité de sûreté nucléaire, l'exploitant a bien dit qu'il y avait un rejet dans l'environnement dont ils ignoraient le total, enfin bon, ils n'avaient pas tous les éléments, mais est-ce que ça a été dit, cette information? Et là, donc, on a posé la question, je ne sais pas si vous avez suivi, j'ai bien interrogé l'autorité de sûreté nucléaire là-dessus, et il n'a pas voulu répondre, il a dit, mais de toute façon, tout ça, je l'ai déjà dit à la conférence de presse, je ne reviendrai pas là-dessus. Alors moi, je me demande ce qu'il est venu faire à la CIGET, parce que nous, je suis désolée, on n'était pas à sa conférence de presse, et on vient à la commission d'information, chacun vient pour apporter les informations et répondre aux questions qui sont posées. Alors, donc on reste sur cette ambiguïté parce que, si vous voulez, s'ils ont été avertis à 7h15, je pense qu'il faut non seulement poser la question de la responsabilité de l'exploitant, mais aussi celle de l'autorité de sûreté nucléaire. Et là, on reste avec un gros point d'interrogation.
Alors, donc sur les mesures proprement dites, j'ai vu que dans le communiqué, vous parlez d'abord de... vous rectifiez un petit peu la quantité d'effluents qui sont partis un tiers dans les deux rivières, Lauzon et Gaffière, et deux tiers dans le sol. Mais après, vous dites que plus que la quantité, c'est également la propagation elle-même, l'irradiation elle-même qui compte. Et là, de ce point de vue-là, ils ne vous ont pas tellement donné de mesures.
Alors, il y a deux choses. C'est, nous, ce qu'on voulait savoir exactement, c'est quelle était la composition. Qu'est-ce qu'il y avait dans la cuve comme polluant? Donc le détail, les produits radioactifs, le détail des uraniums, est-ce qu'il y avait des uraniums artificiels, plus les polluants chimiques. Donc ça, il n'y a pas eu de réponse. Au début, on a pensé que l'exploitant ne voulait pas donner l'information, et ensuite on s'est rendu compte que c'était plus grave, c'est que l'exploitant ne l'avait pas. C'est-à-dire qu'il faudra attendre une semaine pour savoir qu'est-ce qu'il y avait dans les effluents qui sont sortis du site. Donc, alors, je crois que c'était...
Un uranium naturel, quand même.
Donc ça, ces informations ont été données à partir de prélèvements faits dans ce qui restait dans la cuve. Il y a eu des échantillons qui ont été prélevés, analysés par le laboratoire département d'analyse de Valence, analysés par l'IRSN. Et ces informations qu'on a eues en disant oui, c'est de l'uranium naturel, la composition, etc. Mais ça, c'était une semaine après. Parce que le béaba de la maîtrise d'un site par l'exploitant, c'est de savoir ce qu'il y a dans ses cuves, savoir ce qu'il y a dans les fûts qui contiennent les déchets radioactifs, c'est la base. Donc là, il y a vraiment un dysfonctionnement très important sur la maîtrise des matières à l'intérieur d'une installation.
Contenu radiologique.
Voilà. La deuxième chose, c'est au niveau de la quantité de radioactivité qui est sortie. Parce qu'alors, il y a quelque chose, vraiment, je pense que tous les auditeurs vont se rappeler, chaque fois, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a un problème. Donc, de temps en temps, les installations nucléaires, il y a une fuite, il y a un rejet de radioactivité dans l'environnement. Systématiquement, je pourrais presque vous citer phrase par phrase des communiqués officiels, ceux de l'exploitant et ceux de l'État. C'est toujours la même information, c'est ce rejet radioactif n'a pas eu d'incidence sur l'environnement. D'ailleurs, il ne représente que 3%, 4%, 10%, 20% de l'autorisation annuelle dont bénéficie l'exploitant. Là, on a un rejet, on a fait nous les calculs, parce qu'évidemment ça, ils ne l'ont pas donné. Ce rejet, c'est pas 3%, 4%, 10% de la limite annuelle, c'est même pas 90%, c'est 27 fois la limite maximale autorisée sur un an. Et ce seuil autorisé n'est pas un seuil d'innocuité, c'est le maximum qu'il ne faut pas dépasser. Et cette quantité peut être rejetée non pas dans les ruisseaux de la Gaffière et du Lozon, mais dans le canal d'Onzermont-Dragon où coule le Rhône. Et donc vous avez des capacités de dilution. Alors je ne dis pas que c'est bien, hein, parce que nous on s'est beaucoup battu pour dire que les déchets devaient pas, les cours d'eau ne sont pas des dépotoirs où on peut rejeter les déchets radioactifs, mais c'est quand même moins dangereux que de le rejeter dans la Gaffière et le Lozon. Donc voyez l'information quand on nous dit transparence, mais dans l'étape solution, on n'est plus comme en 86 Tchernobyl, mais nous on voit bien qu'il y a un gros changement de communication. Quand on a un rejet inférieur à la limite, on met en avant que c'est pas dangereux parce que c'est conforme à la limite. Là, on a la limite, elle est explosée, on est 27 fois la limite annuelle, et à ce moment-là, on met ça de côté, et au lieu de nous parler en becquerel et de comparer à la limite, on nous parle en grammes, et on ne nous dit pas de quoi. Voilà.